Le domaine des basses minières. Le baron Joseph-François Foulon vit le jour le 25 juin 1715 à Saumur. Après des études de droit, il gravit une à une les marches vers le pouvoir et devint, tour à tour, intendant général de la guerre et de la marine en 1759, intendant des finances et conseiller d'État en 1771. En 1765, il achète la baronnie de Douai qu'il réunit avec les terres qu'il avait héritées de son père à Soulanger. Se trouvant trop à l'étroit dans le château de Douai, il décide de faire construire le domaine des basses minières à Soulanger. La construction a été confiée à l'architecte Antoine, à qui l'on doit l'hôtel de la Monnaie à Paris et l'entrepreneur Caillot de Saumur. Le domaine. Si l'on connaît précisément la disposition des pièces à l'intérieur, il n'existe nulle trace de ce à quoi pouvait ressembler le château. Les ruines permettent d'en connaître l'emprise au sol, 15 mètres sur 32 mètres. Dans la partie encore visible aujourd'hui, semi-enterrée, se trouvaient les cuisines, le cellier, la cave et un bûcher pour le stockage du bois. Après avoir monté l'escalier d'honneur et passé la grande porte, le visiteur faisait face au grand escalier permettant l'accès aux étages. D'un côté se trouvaient le salon de musique et les appartements de madame, de l'autre la bibliothèque et les appartements de monsieur. Au premier étage, une vingtaine de chambres, dont une servant de jeu de billard et une autre de chapelle. Au deuxième étage, sous les combles, se trouvaient les logements des domestiques. Les communs du château, aujourd'hui connus comme les écuries Foulon, sont les seuls bâtiments du domaine à avoir traversé les siècles. L'aile nord abritait à l'étage l'appartement du régisseur, au rez-de-chaussée une cuisine, un salon, un bûcher, des appartements et une buanderie. La lessive était faite dans la salle suivante avec la grande cheminée, puis le linge était transporté au lavoir en bas du chemin, ce qui a donné le nom à la rue actuelle, chemin du lavoir. L'aile sud, quant à elle, contenait la conciergerie, la salle du trésor et les greniers à blé. Les écuries se trouvaient dans le corps central. Les pépinières royales sont installées près du parc du château. Elles sont gérées par le sieur François, régisseur du domaine. Pour la partie sylviculture, le baron fait appel à Edmé Crespin-Châtenay, petit-fils de Louis-Germain Châtenay, jardinier de Louis XIV. La pépinière propose des ormes, des frênes, des chênes, des peupliers d'Italie. Tout cela sera de courte durée. La Révolution. En 1789, Louis XVI convoque les États généraux, élément déclencheur de la Révolution. Le 12 juillet 1789, le baron est nommé contrôleur général des finances en remplacement de Necker. Il n'aura pas le temps de prendre ses fonctions. La colère du peuple gronde, la Bastille a été prise, mais malgré l'insistance de ses proches, le baron refuse de quitter Paris. Le 21 juillet, il se ravise et se rend à Viry-Châtillon afin de se réfugier chez son ami Gabriel de Sartine. Malheureusement, celui-ci a déjà fui. Le baron est arrêté dans le parc du château et ramené de force à Paris. Sur le trajet qu'il fait à pied, on lui fait subir les pires atrocités. On essuie sa sueur avec des orties, on étanche sa soif avec du vinaigre, on lui attache une botte de foin sur le dos. Malgré ce long trajet, le baron, alors âgé de 74 ans, arrive à Paris. Il est livré aux autorités à l'hôtel de ville dans l'attente d'un procès. On l'accuse d'avoir accaparé les blés en période de famine et on lui prête la phrase « s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent du foin » qui a eu pour effet d'attiser la colère du peuple contre lui. Malgré une intervention du marquis de Lafayette, la foule envahit les lieux, se saisit du baron et le traîne jusqu'à une lanterne. Il va être pendu, la corde aurait cassé deux fois avant que le baron ne trépasse. On lui tranchera ensuite la tête, qui sera promenée au bout d'une pique. Son corps, lui, sera traîné dans les ruisseaux. Sa tête accueillera son gendre, Berthier de Sauvigny, intendant de Paris, qui subira le même sort dans la journée. Lorsque la nouvelle de la mort du baron arrive à Douai, le château est mis sous scellé, le mobilier est ensuite transféré à la municipalité de Douai. Héritage. Lorsque les biens des émigrés, c'est-à-dire les nobles ayant fui la France, furent déclarés biens nationaux et confisqués, les biens du baron furent considérés comme tels, ses héritiers étant considérés comme ayant émigré hors de France. En mai 1791, un de ses enfants, Eugène Foulon d'Escotier, intendant de la Martinique, revient en France. Après avoir été arrêté, emprisonné et acquitté, il veut faire valoir ses droits. N'étant pas l'aîné, la loi de l'Ancien Régime ne lui aurait accordé qu'un neuvième de l'héritage. Mais la nouvelle loi ordonne le partage en parts égales. Il peut donc prétendre au quart. Les biens du baron sont listés, chiffrés et divisés en quatre parts, une pour chaque enfant du baron. Deux d'entre eux ayant fui, leurs parts iront à la nation. Une part de l'héritage ira donc au fils, et une autre, contenant le domaine des basses minières, aux enfants de Berthier de Sauvigny, leur mère étant décédée. N'étant plus occupé, le château se dégrade. On vient se servir des pierres et du plomb des gouttières. En 1793, lors des guerres de Vendée, une troupe de soldats républicains est cantonnée sur le domaine. Devant l'état de délabrement du château, le responsable écrit à ses supérieurs que celui-ci n'est pas en état d'accueillir une troupe de bons républicains.